Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur... Quelle émission que je fais donc déjà? Ah oui, le rendez-vous jeu. Le rendez-vous jeu, c'est l'émission où on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo, on vous résume tout ce qui s'est passé, comme ça vous avez juste une émission à écouter et vous savez tout. C'est super pratique, enfin en théorie c'est l'idée, j'espère que ça fonctionnera aujourd'hui, d'autant plus qu'on a des news assez intéressantes, en particulier pour Nintendo. Et j'ai pour m'accompagner dans cet épisode une co-animatrice, je crois que c'est la première fois qu'on reçoit une fille, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Et en plus c'est une camarade de longue date, Diraen est là avec nous dans cet épisode. Comment ça va Diraen?
Ça va bien. Bah, merci écoute, de m'avoir invité.
Je t'en prie.
Parlons de jeu.
Je vais quand même préciser que on se connaît depuis un long moment puisque tu fais partie du petit groupe des podcasteurs. Je sais même plus quand on s'est rencontrés, mais depuis No Watch
là,
au moins.
Je crois que la toute première fois c'était la première IRL de Azeroth.
Oui. D'accord. Donc ça fait un moment quand même.
Ça fait un moment, oui.
Ça fait un bon moment. Ça fait au moins, 7 ans. Et donc tu es professionnelle de la profession de l'industrie et blogueuse. Donc tu connais ton sujet.
J'essaye.
J'ai l'impression, tu vois.
En tout cas.
Bon, donc on a des sujets assez variés qui vont couvrir un petit peu toutes les consoles. On n'a pas trop d'actu PC. Pour cette session. Donc, si vous êtes hyper fan de PC, PC Master Race ou ça, peut-être qu'on évoquera H1Z1 dont le lancement s'est mal passé, mais en même temps, c'est tellement commun qu'on finit par ne plus trop s'en soucier. Et on a, par contre, donc, pour Nintendo, pour Microsoft et pour Sony, une petite quantité de news. Et donc, comme je le disais, on aura dans la deuxième partie de l'émission des informations plus précises sur le Nintendo Direct et un résumé du Nintendo Direct qui a eu lieu il y a quelques jours et dont je suis sûr, Diraen, tu l'as suivi avec attention et avec passion.
Ouais. je l'ai revu ce week-end et puis c'est surtout j'ai suivi sur Twitter en fait.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. J'étais pas devant mon PC au moment de la diffusion. Et du coup, j'ai suivi un peu sur Twitter les news. Et puis, je l'ai revu ce week-end pour avoir les informations de première main.
D'accord. Ouais, donc, tu fais partie de ces gens qui, enfin, comme moi, qui regardent ce genre de conférences un petit peu comme ils regardent un match de foot ou un concert ou un truc comme ça.
Ah, mais complètement. Ouais. Le replay m'intéresse autant que le live.
Bon, écoute, lançons-nous alors avec la première bonne nouvelle pour Nintendo, qui est que la Wii U a connu son plus gros mois de vente en décembre de cette année, c'est-à-dire pour la période des fêtes. Et j'en vois déjà qui commencent à rire jaune sous cap en se disant « Oui, mais bon, leur plus gros mois, en quoi ça se compare au plus gros mois des nouvelles consoles, nouvelle génération, comme la Xbox One ou la PS4 ?» Et moi, la chose qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que la console, la Wii U, est sortie en novembre 2012. Et novembre 2012, donc c'est quand même, ça date pas d'hier. Et si elle a fait son plus gros mois de vente depuis plus de 2 ans maintenant, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas hyper surprenant avec Nintendo, mais tout de même, qu'il y a un engouement qui est en train de se... Enfin, en tout cas, qui n'est peut-être pas hyper intense, mais qui ne se dément pas. Et voire même qui est un peu en train de s'amplifier. Ça confirme ce qu'on était en train de dire dans les épisodes précédents. Comme quoi, Nintendo, eh ben, une fois que les jeux arrivent, il y a tout de même un marché. Je crois savoir que tu as récemment eu une Wii U, toi aussi, Dyrène.
Oui, mais alors, moi, je suis un peu folle. En fait, moi, j'ai vu, juste après l'E3, en fait, ils avaient fait à Paris un espèce de showcase sur lequel ils présentaient les jeux qui avaient été annoncés. Donc, j'ai pu tester un petit peu en avant-première Kirby, qui va sortir cette année, Splatoon, Captain Toad et Yoshi, je sais plus comment il s'appelle. Exactement. Et du coup, je suis sortie en me disant... J'achète une Wii. Donc j'ai acheté ma Wii.
Enfin,
et là,
une
j'ai
Wii U,
réalisé
hein, précisons.
Les... Oui, une Wii U.
D'accord.
Et là, j'ai réalisé que les jeux que j'avais vus ne sortaient pas tout de suite. Donc, bon. Mais j'aime beaucoup ma Wii U. Ouais. Je l'ai acheté il y a 6 mois et ça m'a permis de reprendre un bon niveau de jeu parce que je n'ai plus à négocier la télé pour pouvoir jouer. L'écran déporté, c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup, beaucoup, quoi.
C'est ce qu'on disait dans les épisodes précédents, que la Wii U est une vraie option. Et pour les parents, l'aspect écran supplémentaire, écran déporté, mine de rien, ça peut jouer pas mal, quoi.
Ah, mais je trouve ça génial. Et alors, le catalogue Wii U n'est pas hyper fourni, mais je trouve que les jeux sont bons.
Ouais, c'est sûr que... Moi, je rejoue à Mario, à Super Mario 3D World, là, et j'ai joué à Captain Toad. Ça me confirme que j'étais pas juste tombé sur la tête et en faisant des rêves de Nintendo il y a quelques semaines ou quelques mois. Les jeux sont vraiment enchanteurs, quoi. Et je suis pas. Et toi, bon, t'es pas forcément comme moi, aimer les petits trucs mignons directement.
Tu crois ?
Non, enfin. Pas forcément, je veux dire. Mais bon, Nintendo, ça te parle, quoi.
Non, mais ouais, franchement, moi, j'ai acheté le bundle avec Lego City Undercover, parce que c'était le moins cher. Et je me suis dit, ouais, super, un Lego, encore un. Et en fait, je l'ai fini et j'ai commencé à essayer de faire les 100%, tellement je l'ai vraiment trouvé super chouette, quoi. Même les jeux qui payent pas de mine sont bien finis, sont bien propres, je trouve. Les Captain Toad dont tu parlais, je le trouve absolument génial. Après, il faut aimer les puzzles, c'est sûr. Il faut aimer les jeux de pure réflexion. Mais je le trouve vraiment très très bien fait dans son genre. Et pas trop court, parce que comme il est pas très cher, je crois qu'il est à 40 euros, quelque chose comme ça.
Moi, je l'ai eu à 30, mais oui, je crois que le prix officiel est un peu plus élevé, ouais.
Voilà, j'avais peur qu'il soit un peu court, et donc en effet, il se finit assez rapidement, mais bon, le challenge, c'est d'avoir les 3 diamants à chaque fois et le petit bonus, et du coup, ça, il a une bonne rejouabilité, je trouve.
Et en plus, il y a plusieurs plusieurs livres entre guillemets. C'est pas juste la première série, il y en a au moins une deuxième. J'ai pas fini la deuxième, donc je sais pas s'il y en a une troisième, mais
attention, spoil, il y en a 3.
Bon, ça y est, c'est pas la peine que je le fasse. Tu m'as tout révélé, maintenant je vais plus y jouer. Bon, bref,
ouais,
on va parler.
Plus, oui. Je trouve que pour finir avec ça, je trouve qu'en plus la difficulté est relativement bien équilibrée. Il y a des niveaux qui sont extrêmement durs, que du coup t'es pas obligé de finir parce que tu peux passer directement au niveau suivant. Et il y a des niveaux qui sont. Que tu finis, t'as pris aucun diamant et tu y reviens plus tard. Donc, je trouve ça vraiment... Il n'y a pas de frustration, en fait. Je le trouve vraiment bien équipé.
Non, c'est vrai. Et à vrai dire, même dans Super Mario, donc 3D World, il y a aussi une gestion du rythme, du rythme de jeu qui est excellente. Il y a des niveaux qui sont juste du pur plaisir, qui sont juste des trucs marrants à faire, où il n'y a pas du tout de difficultés, ou très très peu. Et puis des changements de rythme très clairs, il y a des rythmes, enfin des niveaux où on fait des sortes de courses de toboggan, bon j'exagère peut-être un peu, mais c'est ce genre de truc. Enfin, vraiment une maîtrise dans les jeux Nintendo que, on va peut-être me taper dessus, mais j'avais pas l'impression qu'ils avaient une maîtrise aussi... Enfin, je ne sais pas si c'est un ensemble beaucoup plus poli avec la HD, avec tout ça, qui fait que tout est agréable et super bien fait et super beau, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une montée en niveau, carrément. dans l'ensemble de la présentation. Ils ont jamais été mauvais, hein. Moi j'adore les jeux Nintendo depuis très longtemps, et ils sont des maîtres dans l'art de la, du développement. Mais là, je trouve que là, c'est encore plus...
Ils ont réussi à se renouveler sans se renouveler, ce qui est... qui était un peu le problème de Nintendo, mais ils ont quand même réussi à amener un peu de fraîcheur sans pour autant perdre tous les codes Nintendo, donc je trouve ça pas mal.
Donc, comme d'Irène et moi, si vous hésitiez à acheter une Wii U, je pense que ça peut vraiment vous intéresser, plus particulièrement si vous êtes un papa ou une maman et que vous avez besoin d'avoir la télé libre régulièrement. Mais bon, ça se confirme, quoi. Vraiment une option très intéressante, la Wii U, en première ou en deuxième console, mais vraiment.
Ou tout simplement, si vous êtes en couple et que votre moitié squatte la télé, c'est pas mal aussi.
C'est vrai, c'est vrai.
Bref, la Wii U, c'est bien, achetez-la.
Toi, t'as d'autres consoles, nouvelle génération ou...
Non, j'ai pas...
T'as pas craqué pour une PS4 ?
En fait, j'attends qu'il y ait des jeux sur les nouvelles consoles.
Ah oui, c'est une méthode intéressante. J'ai entendu parler des gens qui faisaient ça.
Ouais.
Moi, je n'en ai jamais rencontré, mais ouais, ouais. Il y a des gens, je crois que c'est des gens qui sont, comme on dit, intelligents, je crois. C'est ça, ouais.
Non, après,
un concept qui m'est un peu étranger.
Ça dépend si, à quoi tu as joué sur la génération précédente, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a énormément de jeux sur la Xbox One et la PS4 qui sont en fait juste des rééditions des jeux qui sont sortis sur les versions précédentes. Et du coup, moi, j'ai pas beaucoup de temps de jouer. Du coup, je vais sûrement pas jouer deux fois au même jeu. Même s'il est plus beau, s'il est plus...
si tu les as déjà tous faits, effectivement.
C'est ça.
Et bien justement, parlons-en de la Xbox One et de la PS4. La Xbox One, vous le savez, elle avait aux États-Unis une réduction de prix temporaire, entre guillemets, depuis novembre et jusqu'à la fin décembre ou début janvier. Je crois que c'était fin décembre. Et elle avait été rapportée, pas officiellement en Europe, mais elle était arrivée à son terme. Et j'avais spéculé dans une autre émission que cette réduction reviendrait assez vite. Moi, je disais, allez, au plus tard pour Pâques, avec les œufs et les lapins.
Ah oui.
Pour Pâques au plus tard, mais peut-être même avant, genre peut-être pour la Saint-Valentin, ils pourraient faire une promo marrante. Et ben, finalement, cette promotion est revenue 12 jours après qu'elle se soit terminée. Alors évidemment, Microsoft met les formes en disant « Oui, mais non, c'est une nouvelle promotion qui est elle aussi à durée non définie, mais pas infinie. » Mais bon, pour le moment, voilà. Et évidemment, je pense que le prix de la console, il est aujourd'hui à $349. La console seule, le prix de la console ne va jamais remonter. C'est fini. La console Xbox One seule coûte $349. En France, elle est un petit peu plus chère. On n'a plus les promos, mais à mon avis, là, elle est à 399 euros.
Aussi, ouais.
Oui, je pense qu'il y aura. Elle est à 399 euros. C'est le meilleur deal qu'on ait avec Assassin's Creed, Unity et Black Flag. Il n'y a pas d'autre deal et la console seule est à 379. Je pense que... Enfin, c'était peut-être l'équivalent du deal qu'ils avaient. Il y avait des deals un petit peu plus intéressants, mais... Bon, en gros, elle ne va jamais revenir à $399 ou à €399, à mon avis.
Surtout qu'ils en ont vendu avec cette promotion. Ça leur a permis de passer devant Sony au mois de décembre, il me semble. En termes de vente, donc même si la PS4 continue à dominer le marché aux US, mais ça leur a permis de bien écouler les consoles. Et ils disaient justement qu'ils comptent beaucoup sur l'effet mon pote en a une, je veux jouer avec lui, donc je vais acheter une Xbox One aussi. Donc voilà, à mon avis, ils remonteront pas du tout.
Non, c'est sûr. Et l'idée, mon pote en a une, donc je veux en acheter une. Effectivement, c'est quelque chose c'est une chose dont a bénéficié finalement Sony pendant cette dernière année, parce que comme ils ont eu un meilleur départ, il y a eu une sorte d'effet boule de neige dont Microsoft ne peut pas ne pas aller chasser, parce que finalement, même s'il y a des jeux exclusifs sur les deux consoles, de la même manière que c'est pas je sais pas, Infamous ou Drive Club qui vont faire vendre des PlayStation, c'est pas non plus Master Chief Collection ou Forza qui vont faire vendre des Xbox. Bah écoute, il y a des gens qui vont les acheter, mais
c'est pas la majorité. Non,
mais voilà, c'est pas ça. Quand je dis vendre des Xbox, on parle de Sony, comme on le disait la dernière fois, on est à 18 millions, plus de 18 millions de consoles vendues. Évidemment qu'il y a des gens qui veulent acheter la Xbox pour jouer à Master Chief Collection et des gens qui veulent acheter la PlayStation pour jouer à Infamous. Mais c'est pas ça qui provoque une dynamique de marché suffisamment importante pour que les choses bougent vraiment. Ce qui provoque là, la seule chose qui peut marcher, c'est de se battre sur le prix, à mon sens. Et c'est pour ça qu'ils vont jamais remonter le prix, je pense. Ouais.
Et ces jeux-là sont pas ce qu'on appelle des system sellers, quoi. Exactement. Tu t'achètes pas une console pour ces jeux.
Ouais. Bon, il y en a, encore une fois, il y en a qui vont les acheter pour, mais c'est pas la majorité, c'est certain. Et à propos de prix réduits, Sony a lancé un truc qu'ils ne faisaient pas jusqu'à maintenant, c'est inclure un jeu avec la console, avec leur PlayStation 4. Encore une fois aux États-Unis, j'imagine et j'espère que ça va arriver chez nous, mais il y a désormais un bundle PlayStation 4 plus The Last of Us Remastered pour $399. S'il arrive chez nous, moi je pense que c'est un bon... Ouais.
Sony en Europe, ils faisaient des bundles déjà.
Oui, mais c'était plus cher que le prix de la console seule.
Ah oui, donc là, en fait, le bundle est au même prix que la console nue.
C'est ça, exactement.
D'accord.
Ouais. Donc, pourquoi ne pas l'acheter ?
En plus, avec The Last of Us, oui, qui a eu une très très bonne presse et dont on a beaucoup beaucoup parlé, c'est une bonne idée.
Bah, c'est marrant, quand tu disais à l'instant, enfin tout à l'heure, oui, c'est des jeux que je veux pas refaire parce que je les ai déjà faits sur la console précédente. Bon, je rigolais en disant ah oui, c'est pas bête, mais moi, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fait justement sur la génération précédente et que je veux faire sur cette génération, comme par exemple Grand Theft Auto 5, etc. Et si vous n'avez pas joué à The Last of Us, c'est un jeu qui, à mon sens, c'est pas un system seller, la version revue, refondue de The Last of Us, mais par contre, ça peut être le truc qui vous fait dire « Bon, allez, c'est le petit truc en plus, je vais le prendre et puis ça va être sympa. Déjà, j'aurai un truc qui va me plaire parce que c'est un jeu qui est tellement bon, si vous ne l'avez pas fait, ça vaut le coup, quoi. »
Oui, je confirme.
Tu confirmes. Les chiffres de vente, on a eu là encore, bon, on a beaucoup d'informations américaines, assez peu d'informations européennes malheureusement, mais on a les chiffres du NPD, le groupe qui fait des études de marché pour voir les ventes des jeux vidéo aux États-Unis. Et à ton avis, d'Irène, au hasard, quel est le jeu le plus vendu aux États-Unis en physique, hein, sans compter les jeux dématérialisés ?
Alors, si je n'avais pas regardé les articles avant, j'aurais dit GTA.
C'est vrai ? GTA, ouais. Mais GTA, c'est la version remasterisée, justement. Tu aurais pensé qu'il s'était plus vendu que les nouveaux jeux ?
Surtout 2014 ?
Oui.
Ah oui, non, on est que sur les new gen. Bah, les next-gen, les current-gen, que sur les nouvelles consoles, c'est ça ?
Non, non, là, on est sur les titres tout court. Ouais,
GTA.
T'aurais dit GTA quand même, d'accord, ok. Bah écoute, effectivement, comme tu le sais parce que tu l'as vu, moi, j'aurais dit soit Call of Duty, soit Destiny. Et effectivement, c'est Call of Duty qui s'est le plus vendu. En deuxième, alors là, on se rend compte qu'on parle des États-Unis parce que c'est Madden NFL 2015, les jeux de football américain, là, dont tout le monde se fout. Je suis sûr que je suis en train d'en insulter deux ou trois dans le son.
Je connais personnellement des gens qui jouent à Madden NFL ici en France.
Il y en a. Donc, non, non, bien sûr.
Il y en a.
C'est sûr, mais disons que de là à le placer en deuxième dans la liste des jeux les plus vendus, c'est effectivement un petit peu surprenant.
C'est typiquement un jeu américain, quoi.
Ouais, exactement. Et donc, en troisième, on a Destiny. En quatrième, Grand Theft Auto 5, qui n'arrive qu'en quatrième. Ouais. Cinquième, Minecraft. Sixième, Super Smash Bros. Et on combine 3DS et Wii U. Septième, NBA 2015. Ensuite, Watch Dogs, FIFA 2015 et Call of Duty Ghosts, qui reste...
celui qui est sorti l'année dernière, quand même.
Exactement. Donc, même si Call of Duty se vend de moins en moins bien, c'est indéniable. D'ailleurs, personnellement, j'ai été un petit peu frustré par...
Par le dernier ?
Ouais.
Alors c'est marrant, moi je joue plus au Call of Duty depuis très très longtemps, parce que ça ne m'intéresse absolument pas, mais le dernier là, celui qui est sorti au mois de novembre, je n'en ai entendu que du bien. C'est-à-dire que les joueurs de Call of Duty m'ont dit « Ah, c'est frais, il se renouvelle un peu, il n'est pas si mauvais ».
Bah écoute, c'est l'impression que j'ai eue un petit peu au début, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en multi uniquement. Et qui ont cet avis. Moi, je privilégie généralement la partie
campagne,
voilà. Et la partie campagne m'a vraiment pas plu, quoi. Enfin, j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être la moitié. Et puis j'ai arrêté. Je le reprendrai sans doute à un moment, mais j'ai arrêté parce que c'est tellement ça manque d'imagination, ça manque d'inventivité, quoi. Ils font des trucs en se disant qu'est-ce qui serait encore plus cool que ce qu'on a fait avant. Et on a l'impression que c'est la seule motivation. Qu'est-ce qui serait encore plus incroyable, encore plus choquant, encore plus... Mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme derrière dans le jeu. Alors oui, il y a les exosquelettes qui te permettent de faire des trucs incroyables, de taper très fort, de sauter très haut, de... Mais c'est ça on dit en anglais « checks the boxes », ça check les... On a une liste de trucs qu'il faut faire et on se dit « ok, ça on a fait, ça on a fait ».
C'est les trucs qui marchent et on continue à les mettre dedans.
Ouais. C'est ça. Et même si la forme est différente, le fond reste le même. Et le scénario est tellement idiot, c'est... On est... Bon, par contre, il est très beau, ça, c'est sûr qu'il est, il est beau, mais... Enfin, je sais pas, moi, ça m'a pas convaincu. Mais bon, le multiplayer est peut-être très bon, c'est juste que moi, ça m'a pas parlé, quoi.
J'étais après, alors, pour revenir au classement que t'as donné, moi, je suis super impressionnée par le fait que Madden passe devant Destiny, puisque EA a crié partout, sur tous les toits, qu'ils en avaient vendu des brouettes et des brouettes.
Voilà, Destiny, tu veux dire ? Activision.
Ouais. Activision, pardon. Oui, je parlais de Madden, du coup.
Ouais.
Oui, Destiny, ouais. Activision, je crois qu'ils ont annoncé 9,5 millions de comptes actifs sur le jeu. Donc, je pensais qu'ils étaient juste derrière Call of, en fait. Mais du coup, Madden, ça doit être un jeu qui doit être hyper joué, parce qu'à part aux États-Unis, je vois pas trop sur quel autre territoire ça peut se vendre.
C'est sûr, et il faut garder à l'esprit effectivement que c'est uniquement aux États-Unis, donc le classement serait sans doute différent avec Destiny peut-être un peu plus haut dans d'autres régions du monde, mais oui, Madden c'est une institution, hein. Tu sais, c'est un jeu qui existe depuis, je me souviens des pubs pour la Master, pas la Master System, pardon, Genesis, là...
Mega Drive ?
La Sega Mega Drive, voilà. Merci, décidément. pour la Mega Drive avec Madden, et c'était déjà à l'époque un jeu très très vendu, et encore aujourd'hui, il se vend aussi bien, c'est invraisemblable, quoi. C'est une licence...
On parle d'un pays qui s'arrête de vivre le jour du Super Bowl.
C'est vrai.
Donc, bon,
oui,
ça se tient aussi, quoi.
C'est vrai. Et d'ailleurs, tu parlais de Destiny, on a une liste des jeux les plus vendus sur PlayStation en version numérique. Et donc sur le réseau PlayStation, le PlayStation Network, Destiny, lui, est premier. Grand Theft Auto 5 est second, Call of Duty Advanced Warfare est troisième, ensuite Minecraft, Last of Us Remastered, Middle-Earth, Shadow of Mordor, Battlefield, etc. etc. Donc Destiny, peut-être qu'il s'est plus vendu en numérique, ça serait bizarre, mais bon. En tout cas, il s'est bien vendu, il s'est mieux vendu en numérique sur PlayStation que Call of Duty. En même temps, la console de prédilection de Call of Duty, c'est peut-être la Xbox One. Il y a une sorte de bro attitude sur Xbox en jouant à Call of Duty, donc.
Je ne sais pas. Call of Duty étant un univers qui m'est complètement étranger, je ne m'aventurerai pas en spéculation.
D'accord, bon, on va laisser ça de côté, effectivement. Et moi, je le touche de loin avec un bâton, tu sais. Depuis Modern Warfare 2 et 1 et 2, il ne m'a plus jamais satisfait, donc. Bon, dernière news quand même intéressante, et surtout pour la France, parlons un peu de la France. Dailymotion est en train de lancer un service de live streaming de gaming. pour rentrer en compétition avec Twitch. C'est une nouvelle un petit peu inattendue et en même temps pas si surprenante que ça, puisque l'un des relais de croissance qu'ils peuvent espérer, c'est dans le domaine du gaming, et que visiblement ils ne réussissent pas à rattraper YouTube, qui est très très loin devant dans la course de la vidéo en ligne. Donc ils se disent essayons de voir ce que ça donne dans le streaming de jeux vidéo.
Et moi j'ai regardé rapidement et je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Mm-hmm. J'ai trouvé que la présentation, le système de recherche, etc., était vraiment... je m'attendais vraiment à un truc bricolé à l'arrache, tu vois, en se disant, bon, il faut concurrencer Twitch, donc on va s'installer sur le créneau, et puis on polichera derrière, on peaufinera derrière. Et en fait, ils sont arrivés déjà avec un système que je trouve pas mal pensé.
C'est vrai qu'il est propre, il est beau, l'interface est sympa. C'est sur games.dailymotion.com. Et franchement, il travaille dans cette industrie depuis un bon moment. Je sais qu'ils avaient des partenariats avec différents gros groupes français. Il y avait plein de gens qui streamaient sur Dailymotion, comme Millennium ou d'autres, et qui streament toujours d'ailleurs sur Dailymotion. Et donc, ils voient vraiment un relais de croissance là-dedans. Et pourquoi pas ? Espérons que ça devienne une alternative à Twitch au niveau mondial et que ça ne reste pas limité à la France, parce que c'est vrai que Dailymotion, c'est quand même très français, en sens qu'en France, on connaît beaucoup. À l'étranger, c'est moins utilisé. Mais pourquoi pas, ils peuvent avoir une opportunité là, même si Twitch semble déjà... Ouais. Aller manger le dîner de Twitch, ça va être compliqué quand même. Hein.
Ouais.
Je sais pas comment ils vont faire. Parce qu'ils sont déjà... Le problème...
Ou alors il faut attendre que Twitch se prenne les pieds dans le tapis, victime de son succès. Parce que je sais que j'ai entendu plusieurs fois la réflexion de gens qui disaient que sur Twitch, ça commençait à être tellement foisonnant, il y avait tellement de live, que ça commençait à être compliqué de trouver des streamings de qualité. Et que les systèmes de mise en avant des gros noms... si tu veux regarder autre chose que des joueurs anglophones, en fait, c'était compliqué. Et du coup, c'est peut-être là-dessus que Dailymotion devrait essayer de se positionner, permettre par exemple aux joueurs de chercher par jeu, donc chercher des streamings de jeux particuliers dans leur langue.
C'est vrai, ouais. Bah, à vrai dire, on indique la langue sur Twitch, donc il devrait être possible de rechercher aussi. Mais c'est sûr que bon, Dailymotion a une carte à jouer en tout cas. C'est sur games.dailymotion.com. On va passer quelques news rapidement. Tu m'arrêtes sur celle-ci si tu veux préciser quelque chose. Forza 6 a été annoncé pour 2015. Donc, adepte de la Xbox One, voilà de quoi vous satisfaire encore un petit peu. L'Angleterre a arrêté un jeune homme en relation avec les hacks du PlayStation Network et du Xbox Live pendant les vacances. L'enquête continue, donc ne pensez pas que ça s'est complètement oublié. Dota 2 a passé la barre des 10 millions de joueurs mensuels. Il faut savoir que le tournoi international de l'année dernière avait 10 millions de dollars de prix. C'est énorme. Et ils sont à 10 millions de joueurs mensuels. À côté de ça, si vous voulez un ordre d'idée... Ouais, vas-y, dirais.
C'est ça, c'est que si on le ramène à hauteur de League of Legends, eux, ils sont juste à 67 millions de joueurs. Donc, ils sont encore loin, loin, loin devant, quoi.
Ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein. 67 millions de joueurs mensuels. Mensuels, ça veut dire que tous les mois, ils jouent au moins une fois. C'est fou, quoi. Je me demande combien de temps ça peut continuer. Bon, il faut savoir aussi évidemment que ces deux jeux sont des free-to-play. Donc, il est évident, enfin, quand on peut jouer gratuitement, forcément, c'est plus facile de s'y mettre. Mais là, c'est des gens qui jouent gratuitement ou pas. A priori, il y en a peu qui payent pour avoir des objets en plus. Mais il n'empêche, 67 millions qui jouent tous les mois. C'est pas juste qu'ils ont acheté le jeu ou qu'ils ont installé le jeu une fois. Non, c'est les joueurs mensuels. C'est fou.
Je peux te raconter une petite anecdote.
Écoute, sur j'espérais que tu aurais des anecdotes à me raconter, donc tu me combles, là, vas-y.
Donc, comme tu le sais, je travaille dans la localisation, donc je m'occupe de la traduction des jeux. Et cet été, j'étais à la Games Connection à la Games Convention à Cologne, en Allemagne. Et je rencontrais des prestataires. Et j'ai un prestataire turc.
J'y étais, mais je ne savais même pas. Moi, j'y étais aussi.
Ouais, mais j'étais en réunion toute la... Enfin, j'étais en meeting tous les jours. J'ai quasiment rien vu, en fait.
D'accord.
Mais donc, j'ai un prestataire turc qui vient pour essayer de me convaincre de bosser avec lui pour les langues turques. Et bon, déjà, il se présente en me disant « Oui, on a fait un super boulot sur Far Cry 3. » Je fais « Mais on n'a pas traduit Far Cry 3 en turc. » Il fait « Non, mais le patch pirate, c'est nous qui l'avons fait. » Ah, bonjour, enchanté. Et
tu sais qu'il y a plein de, enfin plein, il y a des éditeurs, notamment CD Projekt, ils ont commencé comme ça. Hein. Enfin bref, je te laisse finir, je te raconterai après.
C'était assez marrant. Et donc il me dit, enfin donc il m'explique en fait que c'est pas la peine d'essayer de sortir des jeux boîtes en Turquie parce que le jeu vidéo là-bas est considéré comme un produit de luxe et que les produits de luxe sont taxés à 50%.
Ouf.
Oui, ouf. Donc le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose qui coûte très cher et donc qui est extrêmement piraté. Mais que par contre, il y a quelque chose qui marche très très bien chez eux, c'est justement tout ce qui est jeu en ligne, tout ce qui est free to play, parce que déjà ils ont une population qui est très très jeune. Ils ont, je me souviens plus exactement du pourcentage, mais ils ont vraiment un vivier de jeunes qui sont forcément des cibles potentielles pour le jeu vidéo. Et il me dit, en Turquie, les chiffres donnés sur League of Legends, c'est 7 millions de joueurs par mois. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc, il m'a dit, il faut que les éditeurs, en fait, soit il faut qu'ils lancent des négociations avec le gouvernement turc pour faire baisser les taxes sur les jeux physiques, soit il faut tout miser sur le dématérialisé. Et League of Legends, là-bas, ça marche très, très, très fort.
C'est incroyable. Pour info, la Turquie, c'est 75 millions de personnes. Donc, 10% de la population turque qui jouerait à League of Legends. Bon, ça me paraît beaucoup quand même. Hein, mais...
Ils ont énormément de jeunes, en fait. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une population qui est très jeune et qui, a priori, est très, très, très engagée au niveau du jeu vidéo.
D'accord. Bah, écoute, c'est sûr que c'est dans ce genre de territoire que les éditeurs vont chercher la croissance aussi. Et en fait, c'est marrant parce que dans tous les pays émergents, tous regarde où en est l'infrastructure Internet pour pouvoir lancer leur jeu au moment où le marché pourra devenir porteur mécaniquement. Quoi. Donc, effectivement, ça se confirme. Diraen, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as encore quelque part dans un placard tous tes vieux instruments en plastique Rock Band?
Tout à fait.
C'est vrai, tu les as gardés ?
J'ai encore ma batterie et mes deux guitares que j'ai stockées au-dessus des armoires de mon fils. Je les ai encore et je crois que j'ai même plus les consoles pour jouer avec.
Eh bien, écoute,
j'ai encore les instruments.
Peut-être, je ne sais plus comment ils se branchaient sur les consoles, mais peut-être que tu vas pouvoir les ressortir parce que Harmonix, donc le développeur de Rock Band, qui était le développeur de Guitar Hero avant de partir ailleurs, a décidé qu'il serait peut-être temps de faire revivre la série. Et ils sont en train de poser des questions. Ils ont fait une enquête d'opinion sur leur site pour savoir un petit peu si ça intéresserait les gens de voir un nouveau Rock Band. À mon avis, ce genre d'enquête d'opinion, tu les fais pas si t'as pas déjà un petit peu étudié la chose. Mais
il me semblait qu'ils en avaient fait une l'année dernière déjà.
Rock Band, non. Ah, une enquête.
Ouais.
Oui, ils posent les questions de temps en temps. Il y a même genre deux ou trois chansons qui sont sorties sur Rock Band là il y a deux semaines. Deux ou trois chansons que tu peux acheter en plus, genre au milieu de rien, parmi les nombreux titres. C'était un petit peu bizarre, mais je pense qu'ils sont en train de tester. Effectivement l'intérêt, mais bon, oui, ils avaient déjà fait une autre enquête, donc peut-être que ça se limitera à l'enquête. Est-ce que tu serais prêt oui, pardon, vas-y.
Non, pas du tout. Enfin, Rock Band, déjà j'ai toujours été nul.
D'accord, bon, t'aimais pas déjà à la base, en fait.
Et en plus le catalogue de chansons m'emballait pas des masses, quoi.
Toi, t'es plus quoi ?
J'étais plus Guitar Hero parce que c'était un petit peu plus rock, un peu plus metal.
D'accord.
Mais le seul truc que j'ai retenu de leur sondage, c'est qu'ils ont placé la Wii U dans les consoles next-gen. Voilà.
Éternel débat, effectivement. Bah, vu comment elle se vend, elle fait définitivement partie de cette génération. Hein, donc, bon.
Ouais.
vous vous êtes toujours demandé combien d'argent gagnait un développeur indépendant à succès. Eh bien, Monument Valley a rapporté 5,8 millions de dollars à son développeur, c'est Us2, je crois, le développeur, pour un développement qui a coûté 1,4 million. Bon, alors évidemment, c'est le revenu qu'on compte là. Ça ne compte pas tous les frais qu'ils ont eus par ailleurs. Et c'est un jeu uniquement mobile. Donc, ça donne un petit peu l'idée de combien ça peut rapporter. Si c'est un jeu, un énorme succès sur mobile, combien ça peut rapporter. Donc là, on est à peu près à 6 millions pour un développement qui a coûté 1,5 million.
Alors, les 1,5 million, c'est le jeu de base plus la partie add-on qu'ils ont livré après. C'est les deux parties de Monument Valley, en fait.
Oui, c'est ça.
Et le truc qui est fou dans ce chiffre, c'est que 95% des gens qui ont acheté ce jeu, enfin qui ont joué au jeu, ne l'ont pas payé.
c'est un autre chiffre qu'on avait entendu. Alors, il y a une partie des gens qui l'ont eu gratuitement avec une promotion Amazon, en fait. Donc ça représente combien ? Peut-être un cinquième, moins d'un cinquième, peut-être un sixième des gens qui ont eu le jeu. Mais le reste, ça veut dire que c'est quand même de la piraterie. C'est... Ouais. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont piraté le jeu l'auraient payé, mais je pense que si on avait demandé aux gens dans la rue ou même aux auditeurs, à votre avis, quel pourcentage des copies de Monument Valley ont été vendues et combien ont été piratées, ou en tout cas installées légalement et combien ont été piratées, je ne pense pas que quelqu'un aurait dit ouais, 80% de piratés.
Ouais, non, 95, c'est énorme. Oui. Et le truc qui est encore plus fort, c'est que donc il y a 95% des gens qui l'ont piraté.
Non, et c'est surtout il y a une partie qui était gratuite sur Amazon.
Oui, c'est vrai. Oui, donc 80%. Non, mais c'est surtout que le taux de complétion, donc il y a 50% des gens qui ont joué à ce jeu qui l'ont fini. Parce que les deux chapitres les plus joués, c'est le 8 et le 10, sachant que le 10 c'est le dernier. Enfin. En général, les gens, quand ils piratent les jeux, ils vont pas forcément au bout parce que du coup, ils l'ont pas payé. Donc, la motivation pour finir le jeu est moindre qu'un jeu sur lequel tu as investi de l'argent. Et je trouve qu'un joueur sur deux qui l'a fini, c'est impressionnant.
Mais là, c'est les gens qui ont lancé le jeu. Donc, si ça se trouve, il y en a plein qui l'ont piraté et qui l'ont jamais lancé.
Ah oui, c'est possible.
Ah, peut-être. Bon, dans tous les cas, c'est des chiffres assez impressionnants, surtout au niveau du piratage. Et puis ensuite, voilà, le jeu qui est sans doute le plus grand succès mobile de l'année dernière, il a rapporté 6 millions de dollars, ce qui est certainement pas un chiffre, un chiffre ridicule. Mais bon, ensuite... Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est pas beaucoup ? Je sais pas. Pour une petite, un petit développeur, c'est certainement une très belle histoire. Même si, bon, je sais pas combien il va leur rester au final. Il va sûrement leur rester de quoi manger et plus. Mais c'est tellement la loterie, ces jeux mobiles, que...
Oui, mais je pense que ça veut aussi dire qu'il y a de la place pour des choses un petit peu oniriques, créatives et originales, quoi.
C'est sûr qu'il correspond très bien à cette description, Monument Valley. Si vous ne l'avez pas essayé, eh ben, peut-être que vous voulez aller y jeter un coup d'œil. C'est un petit jeu c'est un puzzle game un petit peu bizarre et très onirique, effectivement. Dernière petite news rapide. Si vous êtes abonné PlayStation Plus, il faut absolument que vous n'oubliez pas de télécharger Infamous First Light, qui est une version... supplémentaire, un petit add-on indépendant de Infamous Second Son que j'ai téléchargé sans grand espoir quand il est devenu gratuit sur le PlayStation Plus. Oui, je sais que c'est pas tout à fait gratuit parce qu'il faut l'abonnement PlayStation Plus, mais je me comprends.
Est-ce que c'est l'add-on dans lequel tu joues une fille ?
Ouais, exactement. Ah,
j'avais trouvé le trailer de présentation de ce DLC absolument magnifique. Eh ben, alors, j'espère que le jeu est à la hauteur, mais il m'avait vraiment beaucoup plus intéressé que le jeu original, pour le coup.
Eh ben, franchement, pour moi, j'hésite presque à le mettre en jeu de l'année 2014 rétroactivement dans mon expérience.
Ah oui.
Ah oui, oui, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Et en partie, il faut bien comprendre pourquoi je dis ça, mais en partie parce qu'il est très court. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est une expérience de, allez, 5 heures, on va dire, pour faire le jeu, l'histoire. Peut-être 7 ou 8 heures si on veut faire l'ensemble des trucs qu'il y a à faire dans le jeu. Mais c'est un excellent jeu en tant que tel. Et surtout, le fait qu'il soit court, le fait que ça soit une expérience ramassée comme ça, ça veut dire qu'on ne s'emmerde jamais. Il y a zéro remplissage. Toutes les 20 ou 30 minutes, on a une nouvelle capacité ou une nouvelle amélioration. Donc au niveau gameplay, c'est super sympa du début à la fin. Il y a zéro temps mort. L'histoire est bien, elle n'est pas invraisemblable, mais elle est pas mal. Elle est bien jouée, elle est marrante par moments. Et l'expérience du début à la fin, c'est jamais chiant. À aucun moment, c'est je me suis emmerdé. Et pour 15 euros, parce que c'est le prix du jeu normalement, et qui peut être acheté, donc je le répète, hein, sans avoir Infamous Second Son, il a une valeur pour 15 euros qui est à mon sens incroyable. Surtout que je dis 7-8 heures si on veut tout faire. Il y a ensuite des histoires de scoring et de trucs comme ça qu'on peut faire en plus. C'est à mon sens vraiment l'une des meilleures valeurs et l'un des meilleurs jeux qui soit sorti l'année dernière. Donc je ne saurais trop le recommander. Et j'étais vraiment pas, j'ai jamais été fan de Infamous en plus. Donc je ne pensais pas que ça m'intéresserait. Mais à lui seul, je pense qu'il vaut presque l'abonnement PS Plus d'un an, quoi.
Patrick, tu me donnes presque envie d'acheter une PS4.
Bah, franchement, bon, le truc, c'est que, comme je le disais souvent, moi, je savais que j'achèterais une des deux consoles à un moment. Finalement, j'ai choisi la PS4 parce que je suis très fan d'Uncharted, mais c'est un truc comme si tu sais que tu vas l'acheter de toute façon. Bon, peut-être que tu peux acheter.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acheter un, attendre un bundle, mais...
C'est ce que je fais, moi j'attends le bundle Slim.
Ah, mais la Slim, elle va pas sortir tout de suite.
Ouais, mais c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai ma Wii U.
Ok. Enfin, donc voilà, Infamous First Light, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, c'est un excellent jeu, et si vous avez l'abonnement PS Plus, moi je suis allé jusqu'à me payer Infamous Second Son, qui était à 20 euros seulement chez Micromania, mais la semaine dernière, mais du coup je me suis dit, j'ai tellement aimé First Light que je vais essayer Second Son, et le début, ce que j'en ai fait, il est pas mal aussi. Bon, eh ben écoute, je pense qu'il est temps de parler de Nintendo maintenant. T'es super contente, non ?
Ouais.
Alors, Nintendo Direct, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est des petites vidéos de présentation que Nintendo fait tous les trimestres, en fait, et qu'il diffuse directement sur Internet, pas en live, pas en rien du tout, c'est des vidéos pré-montées. Dans lesquels ils présentent les nouveautés de leur trimestre. Ils en font donc effectivement tous les trimestres. Et d'abord, sur la forme, j'avoue qu'au début, je trouvais ça un petit peu ridicule. Parce que Nintendo, ils ont un esprit assez particulier, ils font les choses d'une manière très polissée, on les compare souvent à Disney. On dit que c'est les Disney du monde du jeu vidéo, et ça se ressent. Et comme en plus ils sont japonais, c'est hyper rigide. Les présentateurs, que ça soit Satoru Iwata ou d'autres, ne maîtrisent pas bien l'anglais, et ça s'entend vraiment. Ils ont un accent assez terrible, tu sens qu'ils lisent leurs textes. Et au début, je trouvais ça trop, quoi. Trop japonais, trop caricatural. Et au fur et à mesure, ils ont fini par m'amadouer. Je ne sais pas si c'est parce que j'aime ma 3DS et j'aime ma Wii U, mais ils ont fini par m'amadouer. Et aujourd'hui, je trouve ça non seulement mignon, non seulement j'admire finalement les efforts qu'ils font pour parler anglais et Iwata pour qu'il parle vraiment anglais. Mais en plus, au final, c'est un rendez-vous que j'attends maintenant. le Nintendo Direct, même s'il n'y a pas toujours des informations incroyables, c'est un rendez-vous qui me fait plaisir. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi,
Je crois que tu as tout résumé, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, ils sont tellement ridicules qu'ils deviennent mignons. Et du coup, t'attends avec impatience le prochain Nintendo Direct où tu vas voir Iwata se baisser et tendre la main pour lancer la prochaine vidéo.
Ouais.
Et,
exactement, ouais.
Et tous les mois, c'est alors, comment est-ce que Nintendo va me prendre. Enfin, tous les trimestres, comment Nintendo va me prendre mon argent dans les prochains mois. Et alors, tous les Nintendo Direct sont pas super intéressants. Mais en général, t'arrives toujours à trouver une annonce qui te fait dire ok, ça, je vais le prendre.
Alors pour toi, c'était quoi cette annonce ?
Là sur celui-ci, c'était l'annonce de la New 3DS XL Collector Majora Mask.
Ah là, d'accord.
Parce que quand ils ont annoncé la New 3DS cet été, j'ai hurlé sur tous les toits que ça ne passerait pas par moi, que c'était hors de question.
C'est pas vrai.
Bah, ma 3DS, elle a un an et demi maintenant.
Ouais.
Donc, c'était hors de question que je repaye pour pas grand-chose de plus. Et puis, en fait, ils sont arrivés avec l'argument Zelda. Et là, j'ai fait, bon, d'accord, prenez tout mon argent.
Et pourtant, bah, enfin, Majora's Mask, c'est un remake. Tu l'as déjà fait, j'imagine.
Ah, mais alors, non.
Ah, d'accord.
Ce que je disais sur mon blog, c'est que je me suis mis au Zelda cet été. Je n'avais jamais fait un Zelda.
Aucun Zelda ?
Aucun Zelda.
Oh,
moi, j'avais pas de Nintendo quand j'étais plus jeune. J'avais une Mega Drive. Et du coup, j'ai vu Zelda chez mes potes. Enfin, tu vois, j'ai dû jouer une heure ou deux, mais j'ai jamais fait un Zelda en entier. Et justement, pour la sortie de Hyrule's Warrior à la rentrée, ils avaient fait une promo où il y avait moins 50 à moins 30% sur les versions dématérialisées et émulées des Zelda sur la Wii, sur la 3DS, pardon. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai rien à faire en ce moment, c'est le moment, et je suis tombée amoureuse de Zelda. Donc là, je suis en train de me les enfiler les uns après les autres, et c'est trop bien.
C'est vrai et que du coup, Zelda, c'est...
Ouais, et le Majora's Mask, vu qu'il était sorti sur...
Majora's Mask ?
Oui.
Mais je sais même plus.
C'était
3DS, c'est... non ? C'était DS, pardon.
Non, non, c'était... Il me semble
ah,
que
mais non, mais c'est 64, Dreamcast. C'est Nintendo 64.
C'est la 64.
Dreamcast, du coup, là, par contre, non, je pense qu'il y a... on va donner des
oui,
crises
non,
cardiaques à certains.
Dreamcast, Sega, c'était assez improbable. Non, mais oui, en effet, la 64, et c'est surtout que je m'étais dit, bon, bah, celui-là, je le ferai jamais, quoi. D'ici à ce que je retrouve une 64 et un Zelda, c'est mort. Et alors là, du coup, remasterisé sur la 3DS, j'ai fait bingo.
Mais pourquoi tu le prends pas simplement sur ta 3DS existante ? Pourquoi il te faut la version collector illimitée ? Enfin, limitée.
Mais parce que tu l'as vu, cette 3DS ? Elle est trop belle, elle est toute dorée, avec les petits dessins et tout, elle est magnifique.
D'accord. Bon, et tu l'as déjà précommandée ou ?
Eh ben non, et a priori, du coup, ça va être très très dur d'en trouver une.
Ah, malheur.
Il semblerait que toutes les précommandes soient déjà, parties.
Effectivement. C'est marrant parce que ça a sur toi exactement l'effet que Nintendo a sur les fans Nintendo. Je sais que c'est pas l'ensemble des joueurs consoles. Il y en a beaucoup qui justement sont plus intéressés par Call of Duty, soit parce qu'ils ont 14 ans et qu'ils sont très énervés contre papa et maman et que ah moi je fais des jeux de guerre, soit parce que ils sont un petit peu plus âgés et puis ils veulent des jeux entre guillemets sérieux. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a
beaucoup
de gens...
Mais c'est très sérieux, Zelda.
Ça reste Nintendo, quand même.
Attends, tu sauves le monde.
C'est vrai, t'as pas tort, oui. En plus, dans Majora's Mask, tu n'as que 3 jours pour le faire, oui. C'est vrai que moi, j'ai été... j'ai jamais fait Majora's Mask non plus, figure-toi. J'ai jamais été très grand fan des Zelda en 3D, mais peut-être que je me laisserai tenter par Majora's Mask. Pour préciser, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, donc la New Nintendo 3DS est une nouvelle version de la 3DS, hein, comme son nom l'indique, avec des boutons en plus, mais surtout une manette analogique en plus sur la droite, donc pour contrôler souvent la caméra en plus des mouvements du personnage comme on le fait sur d'autres consoles. Et elle sera disponible... Pardon ?
Une 3D améliorée avec un tracking de visage.
Qui va permettre en fait de ne pas avoir l'effet... Pardon, vas-y.
Oui, c'est ça. Qui va permettre d'éviter l'effet de dédoublement quand tu penches trop ta 3DS. Ça va permettre à la console d'adapter la 3D en fonction de la position de ta tête. Et en plus, l'angle de 3D a de toute façon été élargi.
C'est ça. Donc une console de meilleure qualité certainement, avec des vrais avantages. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'en racheter une si vous avez déjà une 3DS normale ? Bah, on vous laissera juge de la chose.
Vous n'avez pas le choix très très longtemps, parce que la New 3DS, elle est aussi plus puissante. Ce qui fait qu'il y a certains jeux qui vont sortir là maintenant qui ne seront pas rétro-compatibles avec l'actuelle 3DS.
C'est vrai, il va y en avoir, mais il y en a tellement peu. Franchement, tous les jeux, les gros jeux, le problème, c'est que dans un premier temps au moins, ils ne vont pas vouloir se couper de la base installée énorme de la 3DS. Donc, ouais. Je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup, à part peut-être quelques jeux Nintendo. Je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui seront uniquement New 3DS, ou en tout cas, pas avant un moment, quoi.
Mais en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sera pas la nouvelle DSi ? Est-ce que tu te souviens de la DSi ?
Bien sûr, oui, oui. Mais la DSi, il y a eu très très peu de jeux qui étaient exclusifs DSi. Hein.
Ben oui, mais là, c'est la question. En fait, s'il y a très très peu de jeux qui sont exclusifs New 3DS, est-ce que ça va pousser les ventes suffisamment ? Donc du coup, ils ont fait un truc complètement fourbe. C'est qu'avec ta 3DS, maintenant, tu peux changer les coques.
Avec la New 3DS.
Ouais. La New 3DS, tu peux changer les coques de ta nouvelle console. Et alors ça, c'est un piège. Le lundi, tu peux avoir ta coque Mario et le mardi, ta coque Zelda, justement.
Mais tu sais, c'est marrant, moi je comprends pas du tout ce genre de truc. C'est vraiment un truc qui me parle pas du tout, quoi. Le fait de customiser ta petite console, de mettre... C'est comme les Amiibo, d'ailleurs, dont il va y avoir une nouvelle série qui va être disponible en février aussi. Je comprends pas, quoi. Les petits jouets comme ça, les petites customisations... Moi, ça me... Je sais pas. C'est juste pas pour moi, quoi. Tu vois, moi, je suis sérieux. Moi, je joue à Call of Duty parce que je suis énervé contre mes parents.
Et à Infamous.
C'est ça.
Mais t'es pas un collectionneur, en fait.
Non, pas tellement, non.
C'est pour ça.
C'est pour ça.
Sinon, tu serais pauvre et avec plein de coques de New 3DS. Moi, c'est le gros dilemme là avec la New 3DS. C'est la XL n'a justement pas cette feature de changement de coque. Donc, soit tu prends le modèle normal avec un écran un peu plus petit et tu peux changer les coques, soit tu prends la XL et là, tu peux pas changer les coques. Mm-hmm. Et j'en fais des cauchemars la nuit. Laquelle je prends, quoi ? Le grand écran ou le changement de coque
Surtout c'était... que la 3DS XL spéciale Majora's Mask, elle existe qu'en XL, donc...
Oui. Ah oui, non, mais ils sont vicieux chez Nintendo.
D'accord. Bon, pour préciser quand même, elles seront disponibles toutes les deux. À vrai dire, il y a plein de jeux qui sortent le 13 février. La New 3DS XL coûtera 200€, enfin 199. Et la New 3DS tout court coûtera 170€, enfin 169. Donc en gros, je crois que ce sont les prix des anciennes versions, les derniers prix des anciennes versions. Voilà, donc si vous voulez en racheter, maintenant vous savez tout. Je pense que si vous vouliez en racheter, vous saviez déjà tout. Moi, je pense pas, parce que ma 3DS, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas énormément. Donc, je crois qu'elle va... Même si, bon, j'en ai racheté, c'est ma deuxième 3DS. Donc, je me dis, je vais quand même pas encore en racheter une troisième, tu vois.
Tu sais qu'ils vont faire des offres de reprise.
Ah oui ?
Bah oui, forcément. Tu vas ramener ta 3DS et ils vont...
Ah, mais tu veux dire, pas Nintendo, les...
Mais non, les vendeurs, mais oui, ils vont tu trouveras ça dans tous les magasins, ils te la reprendront entre 50 et 80€, et du coup, ça te permettra de déculpabiliser, de racheter un produit dont t'as pas vraiment besoin.
Bah oui, mais il faut faire le transfert de données et tout, il faut avoir les deux en même temps pour ça, non ?
Ouais, mais il me semble qu'en général, ils te le laissent faire.
Ah, du coup, peut-être que j'hésite maintenant. Peut-être que... Bon, on verra à ce moment. Autres informations, des nouvelles intéressantes de ce Nintendo Direct. Le gros morceau, c'était effectivement la New 3DS. On l'a dit, il va y avoir des amiibo, des nouveaux amiibo. Également le 13 février. Des Mario Party 10 qui sortira le 20 mars aura un mode amiibo. Bref, les amiibo sont partout. Ah oui, il y a un capteur NFC qui permet de jouer avec les amiibo sur la nouvelle 3DS aussi. C'est aussi l'une de ses fonctionnalités supplémentaires. Les amiibo, mine de rien, c'est un petit peu confus, je trouve. Je sais pas. Alors, si on veut jouer avec un amiibo sur Mario Party, avec un amiibo qu'on avait déjà utilisé pour Super Smash Bros, il faut supprimer les informations Super Smash Bros si on veut l'utiliser avec Mario Party. Il y a des amiibo qui fonctionnent avec certains jeux et d'autres pas. Enfin, pour certaines fonctionnalités, d'autres pas avec tous les jeux. Enfin, moi, je trouve ça très.
C'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. C'est la stratégie en fait. Le truc, c'est que déjà sur le marché, on a les Skylanders par Activision et puis les Disney Infinity qui est sorti chez Disney. Et en fait, c'est des types d'objets donc, qui mêlent le physique et le jeu vidéo qui brassent énormément d'argent. Mmh. Donc, du coup, Nintendo s'est probablement dit moi aussi, je veux ma part du gâteau. Mais du coup, en arrivant en troisième, il fallait trouver un moyen de motiver les gens à acheter beaucoup d'amiibo. Donc, ils ont commencé par faire des séries spéciales qui normalement ne sont pas rééditées. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas réussi à trouver mon Kirby. Bon, ben, maintenant, soit je le paye 35 euros, soit je laisse tomber. Et donc, voilà, ils vont faire des séries spéciales qui seront compatibles avec certains jeux. En plus, les personnages n'ont pas les mêmes positions que dans la série précédente. Enfin, bref, tout ça, c'est vraiment... Le but, c'est vraiment de pousser à la collectionnite. Par contre, en effet, le fait que les amiibo ne puissent pas supporter les données de plusieurs jeux, enfin, certaines données de plusieurs jeux en même temps, c'est l'utilisateur, ça va commencer à devenir très très compliqué. Ouais. Et je trouve que Nintendo est en train de perdre énormément en lisibilité, aussi bien sur les amiibo que sur ses collections de consoles. Parce que tu c'est trouves, pareil, t'as une 3DS, t'as la 3DS XL. T'as la 2DS, t'as la New 3DS, la New 3DS XL.
La DS aussi, toutes les séries des DS accessoirement.
La DS, elle est...
La Wii U, la Wii...
La Wii U, enfin c'est très très compliqué. Alors là, du coup, avec les amiibo qu'il faut effacer pour pouvoir jouer à Mario Party, enfin ça devient très très compliqué. Limite, il faut que chaque joueur ait son VRP à côté de lui pour pouvoir lui expliquer comment marche le matériel qu'il a acheté, quoi.
Et en fait,
il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que là, ça devient.
Mais
ça
tu sais, non, mais c'est très simple. C'est très simple la solution. Plutôt que d'effacer un amiibo, t'en achètes un deuxième. Et puis voilà, t'as ton Mario pour Smash Bros. Et ton Mario pour Mario Party.
Mais comment n'y ai-je pas pensé? Mais c'est bien sûr!
Bon, une autre nouvelle intéressante pour les gens qui n'ont pas fait les jeux de la génération précédente. Moi, j'ai jamais craqué pour la Wii, que je trouvais complètement anecdotique. Et le motion gaming ne m'a jamais convaincu. Eh bien, je peux désormais acheter certains jeux Wii sur la Wii U. Bon, c'était sur la Wii U en numérique. Et il est possible d'avoir le mode Wii U qui interagit. Enfin bref, c'est le mode Wii sur la Wii U. En tout cas, moi, ce que j'en sais, c'est que j'ai acheté Super Mario Galaxy 2 le jour où il est sorti, qu'ils étaient à moitié prix, donc 10 euros seulement, et je l'ai téléchargé, et au moment de le lancer, ça m'a dit il vous faut le petit capteur sur votre télé, et comme moi j'ai pas mis le petit capteur sur la télé et que j'ai pas envie de m'emmerder à le rebrancher, et ben je me suis dit je ferai ça plus tard, et donc je jouerai à Mario Galaxy plus tard.
Et surtout, il te faut le Nunchuk.
Oui, mais j'en ai acheté un justement.
Enfin, le Nunchuk, la Wiimote.
Oui, la Wiimote et le Nunchuk, j'en ai un parce que je me suis dit, bah, si je veux jouer à des jeux, j'avais acheté Super Mario Galaxy 1, en fait. Finalement, vas-y.
Non, vas-y.
Oui, bah voilà, j'achète la Wii U pour les jeux Nintendo, évidemment. Mais bon, c'est bien, on peut maintenant acheter sur l'eShop des jeux Wii sur Wii U et les lancer en mode Wii classique. C'est très bien, c'est très bien.
Ouais, moi je suis moins convaincue que toi parce qu'il faut encore continuer à se traîner la télécommande Wii, comme il faut l'appeler, et le Nunchuk, et franchement ça me saoule quoi.
Ouais.
Enfin, Mais agiter les bras devant ma console, ça me saoule.
Non, mais pour Super Mario, pour les jeux, pour certains jeux, tu vois, c'est juste que tu pointes un petit peu. Ils ont mis quelques trucs très gimmicks, nouveautés, genre on l'utilise un petit peu comme avec la tablette Wii U, mais ça te gêne pas trop dans ton expérience de jeu.
Bah, tu vois, moi qui joue avec mon écran déporté de Wii U, c'est un très bon jeu sur la Wii U. Il y a eu Pikmin 3. Et je suis tombée complètement amoureuse de Pikmin, et du coup j'ai fait « Oh mon Dieu, comment j'ai pu passer à côté de cette licence ?» Et j'ai récupéré le 1 et le 2. Et du coup, et comme c'est des versions Wii, eh ben, c'est émulé sur la Wii U, mais ça se joue toujours avec la télécommande Wii et le Nunchuk. Et du coup, je me retrouvais à faire mes trucs sur mon écran déporté qui est ridicule. Enfin, du coup, j'ai fini le jeu sur la télé, mais le gameplay était tellement sympa et facile avec le gamepad de la Wii U que de revenir à la télécommande de la Wii, c'était un peu frustrant, quoi.
Pikmin 3, j'ai essayé le début de la démo justement avant de commencer l'enregistrement, mais tu peux pas jouer si t'as que la tablette.
Ah bah si.
Ah bon? Parce que moi, ça me disait « Mais regardez votre télé !» quand je regardais ma tablette. Donc peut-être qu'au début c'est comme ça.
En fait c'est ça, c'est quand tu lances le jeu, il faut que tu t'aies lancé le jeu une fois sur ta télé pour pouvoir l'avoir en déporté sur ta tablette.
Bon,
mais le jeu est tellement beau, tellement magnifique qu'il mérite un grand écran.
C'est vrai, mais je suis jamais rentré dans la série Pikmin. Bon, peut-être que je vais l'essayer.
C'est un jeu très étrange quand tu le vois comme ça. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et je le trouve vraiment très très bien fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la patte Nintendo qui est très surprenante dans la finition parfaite. Et je pense que Pikmin fait partie de ces jeux merveilleusement bien finis.
Alors justement, en parlant de Nintendo et des moyens de faire de l'argent, ils se sont dit... On a une super idée, en fait, on va créer une machine à imprimer de l'argent. Et pour faire ça, ils se sont associés aux développeurs de Puzzle and Dragon 2, Puzzle and Dragon, qui est un jeu mobile qui cartonne, c'est Gung Ho qui développe ça, si je ne m'abuse, qui est un jeu qui cartonne, mais comme c'est pas possible au Japon, et qui est arrivé d'ailleurs en Europe et aux États-Unis dans le courant de l'année 2014, mais c'est le plus gros jeu mobile et l'un des plus gros jeux du pays au Japon. C'est une planche à billets, et ils vont vendre le Puzzle & Dragon Z plus Puzzle & Dragon Mario en combo, qui est une version spéciale de Puzzle & Dragon, en mai en Europe. Il y aura aussi Pokémon Shuffle, qui est un free-to-play également en février en Europe. Et un autre jeu dont ils ont parlé qui m'a pas... Bon, c'est Kirby and the Rainbow Curse. Quoi qu'il en soit, Puzzle & Dragon et Pokémon Shuffle sont des jeux sur 3DS. Et ça va se vendre, en tout cas dans le cas de Puzzle & Dragon, avec son add-on Puzzle & Dragon Mario, comme des petits pains. Et c'est un jeu... qui mélange en fait jeux de rôle et jeux de puzzle, comme son nom l'indique. Est-ce que tu as déjà joué sur
oui.
à Puzzle & Dragon?
Oui. Moi, j'avais récupéré une version japonaise il y a quelques temps, ce qui fait que je n'y ai pas joué très très longtemps. Mais, oui. Mais le principe est génial. Et le truc que j'aime bien, c'est que c'est un tout petit peu plus intelligent que Candy Crush, par exemple.
C'est pas dur en même temps, tu me diras.
Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a des vraies stratégies, il y a une vraie réflexion, et cette espèce de mélange entre je fais mes pulls et je fais évoluer mes dragons, comme je ferais évoluer mes Pokémon.
C'est ça, ouais.
J'ai vraiment trouvé ça génial. Alors, je suis beaucoup moins convaincue par l'intérêt de la version spéciale Mario, où au lieu d'avoir les signes des éléments, t'as des fleurs et des étoiles. Mais non, je trouve que c'est chouette et j'ai très très hâte de pouvoir mettre la main dessus.
Ouais. Moi, j'ai joué un petit peu sur iOS. Ça m'a pas convaincu, mais en même temps, j'ai pas la Pokémonite. N'ayant pas faisant pas partie de la tranche d'âge qui a grandi avec Pokémon, ce type de jeu, moi, c'est pas vraiment mon truc, mais bon, je suis sûr que effectivement ça va plaire à beaucoup. Pour terminer avec Nintendo, Splatoon et Mario vs Donkey Kong sont également toujours au programme. Splatoon toujours le FPS, Mario vs Donkey Kong, qui aura donc un éditeur de niveau comme toujours et qui sera en share buy, une sorte de share buy sur Wii U et 3DS, c'est-à-dire que tu l'achètes sur une version et tu as un code pour le télécharger sur l'autre console. Donc, si
ou
tu
le
veux...
partager avec tes amis si t'es vraiment quelqu'un de sympa.
Oui, si t'es vraiment très très gentil, tu peux donner le code à quelqu'un d'autre. Ouais. Moi personnellement, si je l'achète, ce qui n'est pas sûr du tout, je garde les codes pour moi, hein, je vous préviens.
Oui, mais toi c'est parce que t'as une Wii U et une 3DS.
C'est vrai.
Mais les gens qui ont que l'un ou que l'autre, tu vois, ils peuvent être sympas avec leurs amis.
Sympa avec des amis, c'est un concept qui m'est étranger aussi.
Ce qui t'est complètement étranger. Mais ouais, non, moi, c'est ce que j'attends vraiment là, c'est Splatoon. C'est pareil, je l'ai testé à la fin de l'année dernière et ce jeu est plein de potentiel. Donc, bon, après, c'est du multi. Donc, comme tout multi, en fait, le succès dépend aussi de la population de joueurs qui va s'investir. Mais il est très, très fun.
Ouais, c'est moi je suis très curieux de voir ce que fait Nintendo avec le genre FPS. On en avait parlé aussi à un moment, c'est vraiment un FPS rond, doux, sympathique. Et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire en fait, ce qu'ils vont pouvoir faire avec un FPS qui a priori pas du tout le type de jeu de Nintendo. Donc,
Mais déjà rien que pour l'idée de formater nos plus jeunes esprits au FPS, je remercie Nintendo. Merci.
Très très bien, oui. On va pouvoir les mettre dedans de plus en plus jeunes. Il sera disponible en mai. Bon, une nouvelle app sur Nintendo 3DS qui va vous vendre des dessins animés comme Pokémon, Kirby, Inazuma Eleven, etc. Ça arrive aussi le 13 février. Du côté des développeurs tiers, on a Xenoblade Chronicles X qui arrive en 2015 en Europe. Il sortira le 29 avril au Japon. Et pour New 3DS seulement, voilà, on en parlait, le Xenoblade Chronicles 3DS, qui est un port de la version Wii, sera disponible le 2 avril partout dans le monde. Mais étrangement, le Xenoblade Chronicles 3DS sera disponible sur New 3DS seulement. Mais si j'ai bien compris, Xenoblade Chronicles X sera disponible sur toutes les 3DS. Donc bon, et je suis convaincu qu'il y a genre, je sais pas, 40 personnes en France qui disent Xenoblade, oh j'adore ce jeu. Moi,
Moi je te laisse parler parce qu'en fait, tu vois, j'ai même pas noté sur quelle plateforme ça sortait tellement ça m'intéresse. Donc,
On va enchaîner avec Fire Emblem, un nouveau Fire Emblem qui là aussi c'est le genre de jeu un petit peu niche, mais la niche est quand même beaucoup plus grosse, un jeu de stratégie en tour par tour qui a fait les beaux jours de toutes les consoles Nintendo. Celui-ci s'appelle Fire Emblem IF au Japon. Il sortira cet été au Japon, mais on n'a pas de date pour l'Occident. Je ne sais pas si toi, tu es fan de Fire Emblem aussi, mais c'est un petit peu touffu comme type de jeu.
Pas du tout. Et par contre, j'ai été assez surprise par la direction artistique de leur trailer, qui mélange de la très très belle 3D, un truc un peu animé, et des in-game, des extraits du jeu qui n'ont rien à voir. Du coup, je trouvais ça très très perturbant.
Ouais, c'est un petit peu bizarre. Ouais.
Ils ont poussé en disant qu'ils avaient bossé beaucoup l'histoire et qu'ils avaient fait appel à un mangaka, a priori, un scénariste de manga. Ouais. Donc, j'ai pas retenu le nom du monsieur, les fans m'excuseront. Mais voilà, ils ont poussé le scénario sur celui-ci.
C'est vrai que le Fire Emblem, c'est une série qui est vraiment mythique dans certains cercles. C'est une série où la base, c'est que ça fait partie de ces jeux très hardcore où quand un de tes personnages meurt, il est mort pour de bon. Et c'est terminé, tu peux plus le récupérer. Ça s'est un petit peu adouci avec la dernière édition sur 3DS. Il y a un mode où tu peux... la mort n'est pas permanente. Pardon, excusez-moi, j'ai très faim, donc je me mets à bâiller. La mort n'est pas permanente dans la dernière version, dans un des modes, mais les vrais, ils jouent comme ça, ou avec avec le mode où la mort est permanente, et voilà, et tu suis l'histoire, et quand tu perds un des personnages, t'es vraiment malheureux, quoi. Deux autres jeux, Monster Hunter 4 Ultimate, là encore, c'est un style de jeu qui est très très nippon, le style Monster Hunter, qui sera disponible sur 3DS le 13 février. La démo est disponible dès aujourd'hui.
Et il bénéficiera d'une version collector XL.
sur laquelle tu vas te précipiter aussi.
Non, parce que alors là, du coup, Monster Hunter, ça ne me fait ni chaud ni froid.
C'est marrant, c'est vraiment un style de jeu qui est hyper japonais. Hein. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était fan de ce style de jeu. Il y en a plusieurs, hein, les God Eater, les, enfin, il y en a plein. Tu connais des gens qui apprécient vraiment les Monster Hunter?
Moi, je connais
Hunter,
des très jeunes, en fait. J'ai l'impression que ça marche bien sur les très très jeunes. Mais non, des gens de ma génération qui sont fans de Monster Hunter, j'en connais pas.
Ouais. C'est des gens qui jouent surtout à plusieurs en plus. Oui, c'est possible. Bah, si vous appréciez Monster Hunter et que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est tellement attrayant ce style de jeu, moi je serais curieux parce que ça fait partie de ces genres à part entière dans lesquels je ne suis jamais tombé. J'ai essayé un petit peu comme ça, mais ça m'a pas du tout parlé, quoi. Donc,
et surtout, expliquez-nous en quoi ça diffère de Pokémon. Dans le système de... Non, parce que pour moi, c'est juste un truc où tu vas attraper des monstres ou tu vas attraper des Pokémon. Tu vois,
donc ah, je mais pense Monster... Ah non, mais je crois que tu te trompes de type de jeu. Monster Hunter, c'est un jeu en 3D où tu vas combattre des monstres.
Ouais, non, mais oui, mais c'est ça. C'est même combat, quoi. Tu cours la campagne pour aller taper sur
des monstres. Sauf que là, t'as les représentations en 3D, tu vas te battre, c'est un jeu d'action, c'est pas
du
tout un
jeu
de rôle.
Oui, mais il y a aussi un aspect collection où le but, c'est de croiser un monstre que t'as encore jamais croisé.
C'est pas du tout le même gameplay. Je veux dire, c'est un jeu TPS, c'est un jeu third person action.
Bon, d'accord, je suis pleine de
action,
mauvaise foi.
Oui, un tout petit peu.
Non.
Et dernière chose, un projet. Alors là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est pas que ce qu'il y avait avant était pas intéressant, mais Bandai Namco a annoncé Project Treasure, qui est un jeu coopératif à 4 joueurs, qui a été annoncé par Katsuhiro Harada, qui est le responsable de la série Tekken, entre autres, qui sera un jeu en free-to-play, mais sur lequel on n'a aucun détail et qui sera exclusif à la Wii U. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que le fait qu'un grand développeur, bon c'est un développeur japonais, mais tout de même, un grand développeur s'intéresse à la Wii U, c'est peut-être le signe que maintenant on a un parc installé de Wii U qui est suffisamment grand pour que les développeurs tiers reviennent sur la console. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jeux vont être adaptés, bien sûr, mais ça pourrait être le début d'une tendance qui fait que la Wii U n'est plus considérée comme cette console sur laquelle il n'y a que et uniquement des jeux Nintendo. Peut-être qu'il est le temps de s'y réintéresser, même si on est développeur tiers.
Mais t'as bien raison d'appuyer sur le fait que c'est à peu près la seule information intéressante qu'on a pu sortir de cette annonce. Parce que mis à part le fait que Bandai Namco vient sur la Wii U, à part ça, le gars est quand même venu nous dire « Hey, je vais faire un jeu gratuit pour 4 personnes, mais pour le moment, on ne sait rien
!» Ouais, c'est ça, c'est vrai.
Merci d'être passé. Donc, ouais. En espérant qu'en effet... D'autres développeurs fassent des jeux exclusifs Wii U, parce qu'il y a quand même pas mal de portages, hein, plus ou moins heureux, mais faire des vrais jeux qui soient faits pour les features spéciales de la Wii U, ce serait vraiment pas mal.
Mais en tout cas, il y aura au moins Bandai Namco qui va nous en sortir. Hein. Bon, je pense qu'on peut refermer ce chapitre.
Tu n'as pas parlé des 3 derniers jeux complètement inintéressants que sont Codename Steam, Ace Combat, Assault, je ne sais plus combien, et Ironfall.
Bah écoute, je pensais ne pas en parler, effectivement, parce que je ne les ai pas trouvés très intéressants, mais vas-y, si tu penses qu'ils valent...
Bah non, c'était juste pour les mentionner.
Ok,
voilà.
Bah écoute, ils sont mentionnés maintenant. Si vous aimez les FPS style indie shooter, Ironfall est peut-être pour vous. À 6, un FPS sur 3DS. Je suis pas convaincu.
Et ça intéresse tellement Nintendo qu'ils l'ont balancé en 30 secondes. Au fait, en février, Ironfall. Allez, au revoir.
Voilà, c'était
particulier.
C'était un petit peu ma réaction aussi. Allez, au revoir. Mais c'est terrible parce que c'est un petit jeu indépendant développé par des indépendants justement qui ont dû mettre leur cœur et leur trip dans ce jeu, mais bon.
Je ne suis pas la cible.
Ouais, moi non plus. Disons que si je vais jouer à un FPS, c'est certainement pas sur 3DS que je vais y jouer.
Voilà, c'est ça.
Mais bon, comme tu dis, il y a plein de gamins qui ont pour lesquels la 3DS est la seule console, et il leur faut des FPS aussi, pourquoi pas ? Peut-être que ça les intéressera, de gamins, et pas que des gamins d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait, oui.
On sent la conviction dans ta voix. Bon, il y a tout plein d'autres petites news, comme le rating adulte seulement du jeu Hatred, qui est un jeu absolument horrible aux US et au Canada. H1Z1, qui a eu un lancement un petit peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Moi, j'ai pas vu cette info. Je suis passé à côté. Qu'est-ce qui s'est passé
pour H1Z1?
Ouais.
Ah bah écoute, tout simplement, les serveurs ont pas tenu le coup.
Donc, ah oui, bah rien bien d'original.
Oui, non, non, rien d'incroyable. Bon, le jeu était un petit peu plus pay to win que ce qui était promis à l'origine. C'était un jeu qui avait été kickstarté, donc les gens n'étaient pas très contents. Et Sony, c'est un jeu Sony Online Entertainment, hein, donc la division plutôt PC des jeux Sony. Bah, ils vont finalement faire marche arrière sur ce coup-là et faire des remboursements des microtransactions. Donc. Bon, ils ont...
Bon, c'est toujours ça de prix.
Oui, voilà. Blizzard a envoyé des petites statues d'orques à tous les joueurs qui avaient un abonnement depuis le tout début. Ils ont envoyé une petite statue quand même massive, une reproduction en fait de la statue qui est devant leur bureau à Irvine, aux États-Unis.
Oui, j'ai vu ça, je trouvais ça sympa.
C'est sympa quand même.
Et en même temps, si tu payes ton abonnement tous les mois depuis 10 ans, tu l'as un peu payé ta statue, j'ai envie de dire.
C'est sûr, c'est sûr. Oui, pardon ?
Non, voilà.
Evolve a eu encore une bêta qui a commencé. Evolve, c'est ce jeu 4 contre 1 où on joue un monstre ou un des 4 chasseurs. Il va arriver en février, je ne sais plus quand,
ce
mais
jeu
bientôt.
Est magnifique, ce oui. jeu est formidable.
C'est ouais. vrai
ouais. Moi, je l'ai testé 2-3 fois là, tout le long de l'année. Et il redonne ses lettres de noblesse au FPS.
Ah bah écoute, tu me donnes envie de l'essayer du coup.
C'est les mêmes créateurs que...
Left 4 Dead, oui.
Left 4 Dead, donc voilà. Ils savent faire des bons FPS, ils savent faire des bons FPS coopératifs.
Mais oui, sauf que là, c'est coopératif contre un ennemi, c'est un peu bizarre.
Ouais, mais du coup, je trouve ça sympa parce qu'on a aussi des potes qui n'aiment pas trop le coop. Et du coup, eux, ils jouent les monstres. Et ils s'éclatent, et nous on joue en coop et on s'éclate aussi, donc il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des gens qui supportent pas vraiment la vue FPS, du coup tu peux jouer le monstre où t'as une vue, une troisième vue, t'es derrière le monstre. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et je trouve ça vraiment cool, et il est bien équilibré, je trouve.
Ça donne envie, effectivement. Evolve, c'est un titre que je surveillais depuis un moment, mais encore un témoignage de qualité. Je me dis que je l'essayerai très certainement quand il arrivera. C'est, que je ne dise pas de bêtises, le 10 février.
Exactement.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a fait un épisode bien touffu, avec pas mal de news.
Est-ce que je peux juste rajouter un petit truc ?
Mais tu fais absolument ce que tu veux, Irène, tu es ici chez
c'est,
toi.
C'est mon côté chauvin. Donc, il y a 2 ans, je crois, maintenant, il y a un studio français qui s'appelait Dontnod qui avait sorti Remember Me.
Ah oui.
Qui avait fait un petit peu un four. Et là, ils lâchent rien. Donc, à la fin du mois, il me semble que c'est le 30 janvier, ils sortent un nouveau jeu qui s'appelle Life is Strange. Voilà, allez voir le trailer. La narration, elle a l'air un peu particulière. Mais voilà, il faut juste au moins aller voir. Et si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas. Il est déjà disponible en précommande.
Tu sais, c'est marrant que tu le mentionnes parce que je crois que c'est Polygon qui avait fait un article dessus il y a une semaine en disant « Il est temps de s'intéresser à Life is Strange ». Et du coup, bah, je m'y suis un petit peu intéressé. Et c'est un titre que j'attendais pas du tout et qui, pour le coup, m'intrigue beaucoup parce qu'ils ont dit le ils ont fait la comparaison qui est magique pour moi, c'est qu'ils ont dit que c'était un petit peu comparable à Gone Home. Et je sais que c'est pas du tout le même gameplay, etc. Mais le simple fait de mentionner le nom de Gone Home, pour moi, c'est automatiquement un truc qui va m'intéresser. Et comme en plus, il est très très beau...
Moi, j'ai toujours pas fait Gone Home parce que j'ai promis à un de mes traducteurs que je ne jouerai au jeu que lorsqu'il aura fini de faire le sous-titrage français. D'accord. Mais non, moi surtout ce que j'ai noté, c'est que moi j'avais beaucoup aimé Heavy Rain. Pas pour le gameplay qui était assez pénible, mais parce que pour cette volonté de ramener l'histoire au centre du jeu, de ramener la narration au centre du jeu. Et du coup, il y a ce côté-là, je trouve, de ce que j'ai vu de Life is Strange, c'est un peu comme comment il s'appelait ce jeu aussi, où tu jouais un écrivain qui se baladait avec sa lampe torche.
Alan Wake.
Alan Wake, voilà. Où c'est tu incarnes un personnage qui sait pas exactement ce qui se passe, mais qui est obligé d'être poussé vers l'avant. Et je pense que ça peut être très très immersif et très frais.
Écoute, c'est quelque chose qui un truc qui était pas du tout sur mon radar et qui là maintenant oui effectivement je vais très certainement m'y intéresser un petit peu plus.
Donc c'est un jeu à épisodes, oui. Chaque épisode coûte me semble-t-il un peu moins de 5€, et si vous prenez les 5 épisodes vous en avez pour 20€. En gros, il vous offre le dernier épisode si vous avez acheté les 4 précédents.
Ouais, il y a une promo spéciale qui se termine à la fin du mois où vous avez 10% de réduction, donc 18€ pour tous les épisodes. Ça peut devenir carrément intéressant. On rappelle le titre du jeu, c'est Life is Strange.
Qui sort sur PC, PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360.
Comme ça, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le récupérer. La promotion dont je parlais était sur Steam. Bon, bah on a même parlé de jeux PC, donc les Master Race ne vont pas pouvoir trop nous engueuler. Et c'est sur ce Life is Strange qu'on va se quitter. D'Irène, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait extrêmement plaisir.
Eh bien, merci pour l'invitation. Écoute, ça m'a fait très plaisir aussi.
Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent retrouver tes activités internetiennes ?
Ils peuvent tout retrouver sur mon blog, donc plopisation.fr. Patrick mettra le lien. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Steam, enfin à peu près partout avec le pseudo d'Irene. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Plopisation, j'avoue que c'est un nom de blog dont j'ai toujours été jaloux.
Et oui, c'est pour faire plop.
Bon, merci beaucoup d'Irène. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, et vous savez que vous pouvez retrouver cette émission, les notes de cette émission et de beaucoup d'autres sur frenchspin.fr, qui est le site où j'héberge toutes les émissions que je produis, et il y en a un petit paquet. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à dans 15 jours. Ciao à tous.
Ciao.